voix nue. Cette semaine, Camille Jusot rencontre Hubert Reeves. Ce soir, le temps du Big Bang.
Bonsoir Hubert Reeves.
Bonsoir Camille.
En début de semaine, vous nous racontiez les racines de votre vocation scientifique dans l'enfance et les débuts de votre carrière entre le Canada et les États-Unis. En 1960, vous soutenez votre thèse, elle a pour sujet la formation des atomes au cœur des étoiles, également appelée nucléosynthèse stellaire. Hubert Reeves, qu'est-ce qui attise votre curiosité dans ce sujet?
Alors, au total, ça fait partie de ce cadeau que nous donne la détection du rayonnement fossile, c'est-à-dire qu'au début de l'univers, essentiellement, il n'y avait rien. Un magma incandescent. Donc, tout ce qu'on y trouve, des atomes et nous-mêmes, nous y sommes arrivés après coup. Et un des éléments les plus fréquents, les plus familiers de cet univers, c'est la présence d'atomes. Un autre, c'est la présence d'étoiles. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cet univers qui n'avait ni atomes ni étoiles, aujourd'hui, en soit plein d'une quantité fantastique? A priori, ça aurait pu être très difficile de savoir. Heureusement, à la même période, dans les années 1920 à peu près, on découvre qu'on peut transformer les atomes les uns dans les autres. Et que la recette pour y arriver, c'est qu'il faut qu'il fasse chaud. Ça demande des hautes températures pour arriver à ce que les atomes puissent changer de forme. Et la physique nucléaire, justement, c'est elle qui nous dit comment, au moyen de la chaleur, on peut transformer des atomes en atomes plus lourds.
Comme des sortes d'usines qui fabriqueraient les briques.
C'est ça, exactement. Donc, ce côté historique, moi, c'est celui qui m'intéresse. C'est comment des mesures faites au laboratoire peuvent vous donner des renseignements sur ce qui s'est passé. Ça m'a toujours fasciné, cette idée, et j'étais intéressé à participer à cela. J'étais aux États-Unis à cette époque, à l'Université Cornell, et mon patron était précisément dans ce sujet, travaillait, lui, sur la formation du carbone, comment le carbone s'était formé à l'intérieur des étoiles. Et donc, quand il a accepté de me prendre comme étudiant gradué, il m'a dit, vous allez poursuivre cela et dire comment le carbone lui-même, quand on le fusionne, peut donner d'autres éléments qui sont le néon, le sodium, l'aluminium, le phosphore, il y en a un certain nombre comme ça. Mais il fallait savoir dans quel type d'étoile est-ce que ces réactions allaient se passer. Il fallait considérer que chaque type d'étoile, chaque famille d'étoiles, jouait un rôle quelconque. Il y avait les plus jeunes qu'on appelle les géantes rouges, qui font surtout du carbone. Il y avait ensuite les étoiles qui s'appellent des supergéantes rouges, les supernovas, les naines blanches. Chacune de ces étoiles a un rôle, mais il fallait être capable de dire tel type d'étoile. Pourquoi le critère, c'est un critère quantitatif. C'est-à-dire, pourquoi il y a 10 fois plus d'hydrogène que d'hélium. Donc, c'est toute une série de questions. Pour un physicien, pour un astronome, toute valeur numérique est une question. Pourquoi cette valeur-là plutôt que celle-là? Pourquoi la lumière voyage à telle vitesse plutôt que telle autre? Ça, on n'a pas vraiment de réponse, mais ça fait partie des questions. Pourquoi la Terre est-elle 10 fois plus grosse que Mars, par exemple? La physique, c'est toujours ça. C'est essayer de comprendre, d'abord qualitativement, de dire qu'est-ce qui s'est produit et qu'est-ce que ça prévoit comme valeur à l'observation contemporaine.
Et la robustesse des théories sur l'univers et sur le cosmos, justement, vous avez vécu un moment où elle était questionnée, puisque avant la visualisation du rayonnement fossile dont vous avez parlé, finalement, il y avait un grand débat entre les scientifiques, oui, entre l'existence ou non d'une histoire pour l'univers.
Exactement.
Puisque s'opposaient des scientifiques avec une vision d'un univers stationnaire, finalement aristotélicien, et de l'autre côté, certains commençaient à évoquer un début. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette période?
C'est ça. La question était de savoir est-ce que l'univers existe depuis toujours dans la forme qu'il a, ça c'était une des thèses, ou bien est-ce que cet univers a un commencement, est-ce qu'il a une histoire, est-ce qu'il se passe quelque chose dans cet univers. Ça c'est la vision présente. Et la période du début du XXe siècle jusqu'au milieu, c'est l'ensemble des preuves qui ont été apportées que la première est fausse et la deuxième est vraie. C'est-à-dire que l'univers a un âge, il a, aujourd'hui on le connaît, c'est 13, 14 milliards d'années, à peu près, c'est pas très précis. On a plusieurs preuves de cela. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est tel qu'il est, il n'a pas toujours existé, il était profondément différent, puisqu'au tout début, il était extrêmement chaud, extrêmement dense, extrêmement lumineux, et que c'est là que se sont formées progressivement les galaxies, les étoiles, qui a une sorte de scénario du développement de l'univers. On arrive à raconter, d'une façon plus ou moins précise, plus ou moins approximative, à quelle période sont apparus les premiers noyaux atomiques, à quelle période sont apparus les premiers atomes, à quelle période les premières molécules, et puis également à quelle période est apparue la Terre, le système solaire et tout ça. C'est ça qu'on essaie de mettre en place. Et c'est ça que moi je trouvais fascinant, c'est de pouvoir mettre des dates à ces événements.
Et vous-même, lorsque vous étiez étudiant, Hubert Reeves, le rayonnement fossile donc n'a pas encore été observé, donc la preuve observable d'un début à l'univers n'est pas justifiée. Vous avez eu un professeur, Georges Lemaître, qui est un des pères du Big Bang. Est-ce que vous êtes vous-même convaincu du Big Bang ou est-ce que vous, finalement, vous positionnez entre ces deux camps? Quelles sont vos intuitions en tant que jeune étudiant?
Eh bien, je vais vous dire, j'étais à l'université où il y avait les meilleurs scientifiques qui admettaient tous, admettre, ce serait exagéré, qui pensaient tous que l'univers existait depuis toujours. C'est cette idée qu'on appelle l'invariance de la matière. La matière, c'est quelque chose d'éternel et d'inchangeant. Une série de résultats d'observation, dont le mouvement des galaxies, amène à l'idée que cela est faux. Et là commencent les débats entre les deux. Quand j'étais étudiant, la plupart des professeurs étaient du côté d'un univers stationnaire. Moi, en tant qu'étudiant, je n'avais pas vraiment d'opinion et je pensais que tous ces grands scientifiques devaient forcément avoir raison, donc je ne m'investissais pas beaucoup dans cette question. Et quand j'ai appris en 1965 la découverte qui a vraiment apporté la preuve, disons définitive, c'est-à-dire le rayonnement fossile, ça m'a paru évident que c'était la position à prendre. Mais j'ai été amené tout au long de cette période à me poser des questions, à voir la théorie de l'histoire de l'univers prendre du poids. Et en 1965, avec le rayonnement fossile, la preuve, disons, sans exception possible.
Georges Lemaître, un des pères du Big Bang, vous le connaissiez, c'était un de vos professeurs?
Oui, j'ai eu des cours de lui, oui. Mais il travaillait, lui, à l'université de Louvain. Et moi, j'étais à cette période-là, à l'université libre. C'était l'année sabbatique que j'ai passée en 64-65. Et le professeur m'a demandé de venir rendre visite à Louvain, ce qui était tout près. Parce que ce qui se passait d'étrange, c'est que tous les premiers qui se sont occupés de l'univers ne s'occupaient que des galaxies et des étoiles. Pensaient que les atomes et les molécules, c'était ce qu'ils appelaient de l'anecdotique. C'était de l'entomologie. L'abbé Lemaître employait le mot entomologie. Et il disait, j'avais l'idée, ben il admettait que c'était un préjugé, que ça ne comptait pas beaucoup pour quelqu'un qui voulait reconstituer l'histoire de l'univers. C'était deux mondes différents. Il y avait le monde des atomes, des molécules, et il y avait le monde des galaxies et des étoiles. Et que le monde des atomes et des molécules n'avait pas beaucoup de rapport avec le monde des étoiles. Et moi, j'avais été invité à Bruxelles, justement, parce que ma thèse était en train de montrer que l'histoire des atomes et des molécules était aussi importante pour reconstituer le passé de l'univers que l'histoire des galaxies. C'est là qu'est arrivé ce second point de vue. Avant lui, on ne s'occupait que des grandes structures, puisqu'on parlait de l'univers, très grandes structures, et là vous parliez des atomes, toutes petites structures visibles à l'œil nu. Et moi donc, j'avais donné des cours à Bruxelles, justement pour montrer l'importance de la physique nucléaire et de la physique des atomes. Et lui n'était pas venu, il était vieux, il était âgé, il habitait dans un appartement très chic, avec des draperies, il jouait du piano, il m'avait joué du Chopin, il jouait assez bien pour un homme de son âge. Et il m'avait dit, je vais vous demander quelque chose, vous ne me répondez pas si vous voulez, mais pour moi c'est important. Je sais que vous avez fait des cours sur les atomes et sur les molécules. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est important pour la cosmologie? Alors je lui ai dit, aucun doute là-dessus. Il m'a dit, vous permettez que je répète ça? J'ai dit, vous avez toute liberté de répéter ça. Et c'est là qu'il m'a joué du Chopin.
Et Béris, est-ce que vous vous rappelez du jour où vous avez appris justement l'existence de ce rayonnement fossile, qu'on l'avait détecté? Est-ce que, en tant que scientifique, on est pris d'une sorte de petit vertige face à l'ampleur de la nouvelle scientifique, de ce que ça va apporter à la science pour le futur?
Malheureusement, je dois dire non. Je n'ai pas réalisé sur le coup. Ça a dû prendre au moins un an avant que je réalise, que je me dise, mais oui, évidemment, ça, tout cela implique une histoire. C'est ça l'idée qui m'est venue. Je reliais ça à l'histoire de Darwin, parce que le physicien nucléaire avait montré comment les petits gros noyaux se forment à partir des petits noyaux par la physique nucléaire. Darwin avait montré comment les gros animaux organismes se forment par la sélection naturelle des petits animaux qui évoluent. Et tout d'un coup, on nous racontait que l'univers, ça a aussi une histoire. Alors je me suis dit, ben c'est trois histoires qui vont ensemble, parce que pour faire les atomes de Darwin, il fallait la physique nucléaire, pour faire les molécules, il fallait la chimie, et il fallait le cosmos comme lieu, comme cadre de tout cela. C'est là que j'ai eu cette intuition, mais je ne suis pas le seul, il y en a plusieurs qui ont eu cette intuition en même temps, parce que c'était trop évident.
D'ailleurs, Hubert Reeves, vous dites parfois que les astrophysiciens sont des préhistoriens de l'univers. Quels sont leurs outils, justement, pour regarder plus loin dans le temps et plus loin dans l'espace en même temps?
Oui, eh bien, pour regarder dans le temps et l'espace, c'est des télescopes. Les télescopes, quand vous regardez loin, vous regardez tôt. C'est-à-dire, si vous regardez à 1 milliard d'années-lumière, vous voyez la matière telle qu'elle était il y a 1 milliard d'années-lumière. Donc, l'astronomie a l'équivalent d'une machine à remonter le temps. Si vous voulez savoir comment était tel objet à telle période, vous choisissez un de ces objets à l'endroit qui est tel que ça met à la lumière le temps qu'il faut pour vous arriver. Donc, c'est magique. Si les historiens avaient cette possibilité d'aller voir la bataille de Knossos ou autre, ben, ça n'existe plus. Waterloo, ça n'existe plus. Tandis que la naissance de la Terre, ça existe. Vous pouvez l'observer, disons.
Et Hubert Reeves, aujourd'hui, on a d'autres outils pour percevoir. Il y a les neutrinos, il y a les ondes gravitationnelles. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris la visualisation de ces ondes gravitationnelles?
Ça a été fantastique. Parce que ça, on s'y attendait. Einstein l'avait prévu. Il y a un siècle maintenant, mais il avait prévu que ces détecteurs nécessiteraient une sensibilité telle que jamais on arriverait à fabriquer des télescopes, des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Donc on avait un petit peu abandonné l'idée en se disant « c'est bien dommage parce que c'est toute une nouvelle astronomie, c'est toute une nouvelle façon de photographier la réalité » qui vous donne des renseignements complètement, partiellement différents de l'astronomie. Ce qui est fantastique, c'est qu'on ait réussi à les détecter. Einstein, comme je vous dis, qui connaissait bien le sujet, était sûr qu'on n'y arriverait jamais. Et le fait qu'on l'a découvert, quand on regarde un peu la technologie, c'est ahurissant, c'est vraiment ahurissant. Ça montre que les êtres humains sont vraiment géniaux.
Et Hubert Reeves, parmi les mystères non résolus de l'univers, dans la science en cours, quel serait celui dont vous aimeriez le plus connaître la solution?
Alors, celui qui nous touche de plus près, c'est sommes-nous seuls dans l'univers? C'est est-ce qu'il y a d'autres planètes où il y a des gens qui bâtissent des télescopes, qui se posent des questions? Et ça, c'est une question qui se pose depuis le temps des Romains. Je ne sais pas la réponse, mais j'ai l'opinion qu'il y a beaucoup d'êtres vivants et de sociétés en communication ensemble. C'est une opinion. Je ne peux pas la défendre. C'est une sorte de conviction personnelle.
Hubert Reeves, vous continuez d'éplucher les revues scientifiques, comme d'autres liraient le journal, finalement, pour vous tenir informé de ces dernières nouvelles du cosmos. Et les dernières nouvelles du cosmos, c'est aussi un titre de l'un de vos livres, publié chez Seuil en 2002. Quels sont les meilleurs moments pour éplucher ces nouvelles du cosmos, Hubert Reeves, dans une journée?
Moi, c'est le soir, tard le soir. J'essaie de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau. Je regarde, il y a des revues qui vous donnent une phrase, mais c'est crédible. D'autres, vous savez, mais ça me fascine toujours. Cette espèce d'ouverture qu'il y a. L'avenir est inconnu. Ce qu'on saura dans 10 ans, on n'en a pas très peu d'idées. Dans 100 ans, certainement beaucoup moins. Il y a cet avenir qui est ouvert et qui va continuer à nous raconter cette histoire qui nous fascine, même si nous n'en connaissons pas le sens, même si nous ne savons pas à quelle sauce nous serons mangés, si on peut. Mais ça reste ouvert. Et ça, c'est contraire à toute la physique du 19e siècle, où après les gens comme Newton et Galilée, on est sûr que l'avenir est écrit, qu'il y a quelque chose comme un grand livre, Dieu ou autre, qui connaît votre avenir. On est sûr que l'univers est fixé. Il n'y a pas d'hasard. Et le début du 20e siècle, c'est justement le début du changement complet. L'univers est ouvert, il n'est pas inscrit nulle part, il n'y a pas de document caché, secret qui est en train de se... C'est ce que disent les Arabes, Mektoub, c'est faux. L'univers n'est pas ouvert, et ça, je trouve ça fascinant. Une expérience, un événement très important s'est passé en 1920 ou 25. Un physicien nucléaire qui s'appelle Rutherford, celui qui a découvert la physique nucléaire, les particules alpha, se trouve un jour devant un compteur Geiger, c'est-à-dire qu'il y a une source radioactive, puis il y a un compteur. Et puis, il regarde, il écoute, et il entend tic, 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 une séquence, mais qui a aucune régularité, absolument aucune régularité. Alors, il se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui donne le programme? Alors, il se met à faire des calculs sur la probabilité que la séquence soit ceci ou cela. Il trouve rien. Il se met aussi à faire des calculs et à se dire, je vais supposer qu'il y a un programme. Simplement, je vais supposer qu'il y a un programme. Et je vais essayer de faire les calculs de la séquence. Et je vais ensuite faire le même calcul en supposant qu'il n'y a pas de programme. Quand il fait l'hypothèse qu'il y a un programme, sans dire lequel, puisqu'il ne le connaît pas, il n'arrive pas au résultat. Ce n'est que quand il propose qu'il n'y a pas de programme, qu'il peut arriver au résultat. Ça s'appelle Bell, B-E-2-L. Et ça, c'était un élément très important. Ça a été l'idée qu'il y a du hasard dans la nature. C'était la négation de Laplace ou la négation de toute cette physique qui était bâtie sur tout est écrit. Il y a des événements qui sont laissés au hasard. Il y en a beaucoup qui ne le sont pas, évidemment, à l'orbite de la Terre, etc. Mais au-delà des événements qui ont un programme, il y a des événements qui n'ont pas de programme. Et en particulier, le clic-clic-clic de l'uranium que vous entendez.
Hubert Reeves, est-ce qu'il y a des moments où le scientifique que vous êtes ressent une émotion face à une série d'équations qui révèlent sa vérité, face à une observation qui vient confirmer l'intuition ou à la lecture d'un raisonnement vif et élégant d'un collègue. Y a-t-il des moments où l'esthétique scientifique vous bouleverse ?
Oui, il y a une question qui est très discutée par plusieurs chercheurs qui donne de la valeur à ce qu'on appelle l'élégance. Une formule très élégante ne peut être que vraie. Moi, je ne crois pas un mot de ça. Je fais une distinction entre deux choses. La carte et le territoire. Si vous partez en voyage, vous allez trouver une carte. Vous allez parcourir un territoire. Vous savez très bien que le territoire est beaucoup plus riche que la carte. La carte a quelques éléments qui vont vous guider. Mais quand vous allez arriver sur le territoire, est-ce que vous allez pouvoir obtenir une carte qui soit équivalente au territoire? Le problème, c'est les outils que vous avez. Les outils que vous avez pour décrire le monde, ce sont les concepts, les preuves, les mots,
les formules,
les phrases,
chiffres.
Tout cela. La question fondamentale, c'est est-ce que la réalité peut être ultimement représentée en concept? Ça, il y a une fameuse phrase de Hegel qui dit le contraire, qui dit « le réel est rationnel ». Le réel est-il ultimement rationnel? Il est largement rationnel. Les orbites des planètes, tout ça, ça colle bien. Mais est-ce que le déclic de M. Rutherford peut être mis en concept? Est-il rationnel? Moi, je n'ai pas de réponse à celle-là. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que la carte, c'est toujours une approximation. Que ce que vous pouvez exprimer en concept, ça peut être une excellente approximation de la réalité. C'est la physique moderne, la physique quantique, par exemple. On a une physique quantique qui nous permet de décrire les phénomènes les plus mystérieux. Mais on ne peut pas la rendre complètement rationnelle. Elle est largement irrationnelle. C'est-à-dire, ma conclusion, c'est que le réel est plus étrange que ce que nous pensons et que ce que nous pouvons imaginer. Donc l'idée qu'on puisse un jour, je sais pas, peut-être un jour on aura ce que les gens appellent la formule du tout. Souvent vous voyez cette phrase. Notre objectif, c'est de décrire la formule du tout.
De réconcilier la physique quantique et la physique...
Non, pas les réconcilier, mais pouvoir écrire une formule de physique quantique avec des concepts. Peut-être ça viendra. Jusqu'ici, la plupart des gens ont démissionné. Feynman est tout à fait opposé en disant c'est pas la façon de procéder. Il n'y a pas de théorie du tout. Parce qu'une théorie du tout, ce serait une théorie conceptuelle. Quand on dit théorie, on parle de concept. On parle de temps, on parle d'espace, on parle d'énergie, on parle de particules. Ça, c'est des concepts. Est-ce que la théorie du tout, c'est-à-dire l'ultime réalité, peut être formulée en termes de concept? Jusqu'ici, on n'a aucune preuve de cela. C'est une démarche. Il faut considérer la recherche non pas comme on choisit les bons concepts et on fabrique la théorie du tout, mais les bons concepts, on les connaît pas, il faut commencer par les fabriquer. Et on les fabrique progressivement par la recherche. La recherche vous montre certains résultats, par exemple la notion de temps. La recherche confirme la notion de temps. Maintenant, tu vas dire, est-ce que la notion de temps est une notion fondamentale ou une notion approximative faite par des êtres humains? Et ça, c'est tout l'effort de la science qui consiste à améliorer la carte. Quand on passe de la physique classique à la physique quantique, on améliore la carte. On a une meilleure description conceptuelle de la réalité, ce qui nous permet de faire des calculs, ce qui nous permet de faire des modèles. Et ça, ça marche bien. Mais c'est pas évident que ça marche jusqu'au bout de la réalité. Que la réalité n'est pas beaucoup plus étrange, mais peut être approximée par Descartes.
Hubert Reeves, vous êtes père de 4 enfants, mm-hmm. alors même que vous n'avez pas encore fini votre doctorat. Mm-hmm. Est-ce que carrière scientifique et vie de famille sont conciliables?
Moi, je ne les ai pas très bien conciliés. Je me dis souvent que si j'étais à recommencer, j'accorderais beaucoup plus de temps à ma famille que je ne l'ai fait. Bon, il est trop tard pour changer les choses, mais je pense, oui. Parce qu'il y a toujours l'objectif, quand vous choisissez une carrière, vous avez envie d'être bon, d'être en compétition avec les meilleurs. Et vous êtes prêt à y donner du temps, parce que vous savez que ça prend du temps et du travail. Mais ça peut avoir l'effet négatif, c'est que vous négligez l'éducation des enfants. Ça, ça a été mon problème pendant longtemps. Bon, c'est comme ça.
On vous doit la formule désormais célèbre « poussière d'étoiles ». Qu'est-ce que vous entendez par cette expression? Et quand est-ce que vous la dites pour la première fois?
Alors, je ne suis pas le premier à l'avoir dit. Il y a un astrophysicien, Carl Sagan, qui a été très important dans l'astronomie d'instruments.
Alors, vous l'avez popularisé.
Je veux dire, ce qui m'est arrivé, c'est simplement de mettre ensemble 3 éléments, dire la biologie m'apprend que je suis fait de carbone et d'azote et d'oxygène. Le carbone et l'oxygène n'existaient pas au début de l'univers. Ils ont été créés par des étoiles. C'est évident, mais ça ne frappe pas nécessairement aux yeux, voyez. J'ai des amis qui étaient des physiciens nucléaires depuis longtemps et qui m'ont dit, quand ils avaient lu dans un de mes livres « Nous sommes des poussières d'étoiles », ils se sont dit « Mais oui, ça ne leur était jamais venu à l'idée ».
Ce qui est beau avec cette expression Hubert Reeves, c'est que c'est aussi très poétique et ça nous amènera à discuter demain des liens que vous tissez entre astronomie, poésie, musique pour vulgariser la science.
D'accord.
Merci, Hubert Reeves.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Camille Jusot avec Hubert Reeves. À voix nue, réalisation Lionel Quentin, prise de son François Rivalan, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.